Bonjour, vous écoutez Itréma, le magazine des livres et de ceux qui les font vivre. Vent d'ouest avec rafale de pluie. Le matin, Camille et Yves sont allés aux prestations. Le soir, avons commencé à remonter le moulin à vent. Paulette est allée à Estèbes lui aider à faire la saucisse. Camille est allée la chercher et souper. Ce petit texte que je viens de lire date du vendredi 19 février 1954 et c'est la dernière publication, au moment où j'enregistre cette émission, du blog tenu par Sébastien Safon, Les Carnets d'Émile, un blog fait des extraits du journal du grand-père de Sébastien, métayé dans le Lauragais au cours des années 50. Et de ce blog aidé un auteur, Sébastien Safon, car en effet, Sébastien ne s'est pas contenté de reproduire le journal de son grand-père. Il a aussi décidé de prendre la plume avec le même souci qui fut celui de son grand-père, rendre compte de la vie dans le Lauragais. Il vient de publier son deuxième roman, Le silence de la combe, aux éditions du 38, une maison d'édition qui se trouve à Villefranche du Lauragais et dont nous vous reparlerons. Le silence de la combe se passe en 1939, la guerre a éclaté, Jean est mobilisé comme réserviste à Agen et il revient donc à sa femme Jeanne, la charge de s'occuper de la ferme et de leur unique enfant. La vie est difficile malgré la solidarité et puis apparaît Lino, un ouvrier italien que Suzanne a bien connu et qu'elle pensait avoir oublié. Les secrets vont vite remonter à la surface. En toile de fond, il y a la guerre bien sûr, mais surtout le Lauragais, sa beauté, sa rudesse et sa culture. On retrouve tout de suite Sébastien Safon.
Alors tout a commencé avec les carnets d'Émile. C'est un blog sur lequel vous avez publié un certain nombre d'écrits qui ont pu être faits par votre grand-père qui était métayer dans les années 50. Parlez-nous de ces carnets d'Émile et puis qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez souhaité vous-même prendre la plume ?
Alors c'est un glissement qui s'est opéré, c'est un joli accident de la vie on va dire. Moi j'ai une petite formation d'historien dans mes jeunes années d'étudiant et mon grand-père écrivait tous les jours à la métairie ce qu'il faisait. C'était un journal de travail qui était important pour lui, un réel objet de travail et toute sa vie, toute sa carrière, il a continué l'exercice que son propre père avait commencé, c'est-à-dire celui d'écrire tous les jours quelle était la météo, les activités menées à la métairie, etc. etc. Et il était voisin d'Henri Ricalens à Avignonnet lorsqu'il a été retraité, qui était un historien du Lauragais assez connu, et qui m'a dit « Mais toi qui as une formation en histoire, ton grand-père a un trésor sur ses étagères. Ces carnets-là disent quelque chose de l'agriculture lauragaise. Il faudrait que tu les mettes en valeur. » Et puis, j'ai laissé courir l'idée comme ça. Et en 2016, je me suis dit « Bon, le moment est venu. Alors pourquoi là ? Je ne sais pas. » Et je me suis demandé qu'est-ce qui correspond le plus à un journal quotidien de nos jours ? Eh bien, je me suis dit que c'est peut-être le blog. Et donc, chaque jour, à 70 ans de distance, je publie sur les carnets d'Émile les écrits de mon grand-père.
Donc, ces écrits continuent à vivre. Vous êtes fortement intéressé au Lauragais et puis surtout à ses traditions et puis à cette agriculture paysanne. Et vous avez publié 2 tomes autour justement d'une famille de 4 générations qui vivent les conditions qu'ont pu être celles de votre grand-père, celles de métayer justement. Et c'est un prétexte pour vous à ce moment-là de nous faire découvrir des situations qu'on ne connaissait pas forcément et surtout les conditions de vie de ces métayers.
Qu'on ne connaissait pas ou qu'on avait oublié en fait. En effet, avec ces carnets d'Émile, j'ai tellement travaillé ce matériau-là de l'agriculture d'autrefois. Ce métayage qui en était à son crépuscule quand même, parce que des métayers, même dans les années 50, il n'y en avait quasiment plus. J'ai tellement travaillé ce matériau que je me suis dit, Pourquoi je n'en ferais pas une fiction de ça? Parce que je le connais bien, ce cadre de travail des métayers. Pourquoi finalement? Parce que ça m'avait toujours titillé, le fait d'écrire. Et j'en ai fait un autre blog, voilà, où je publiais chaque semaine un épisode de la vie fictive d'une métairie dans le Lauragais des années 50. Et là aussi, il y a eu un lectorat immédiat et très friand de ce que je publiais. Et donc, voilà comment la belle aventure a commencé, en fait.
Ouais. Ça, c'est ceux de la borne, hein, c'est ça?
Ça, c'est ceux de la borne, perdu, oui.
Voilà. Et donc, il va connaître sa petite vie, tranquillement.
Sur Internet,
sur
oui.
Sur Internet, voilà. Vous avez déjà un certain âge, à ce moment-là. On a à peu près le même, hein, donc. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous dites « Allez, j'ose maintenant ». Parce que l'écriture, ça peut être très intimidant. Et surtout, lorsqu'on a lu pas mal de livres et qu'on a de l'affection pour la chose littéraire.
C'est très intimidant, l'écriture, et c'est un parcours, l'écriture. J'ai dans mon bureau, encadré, un courrier que j'avais écrit, que François Giroux m'avait écrit après que je lui ai envoyé une lettre en 94, j'avais 20 ans, et je lui disais mon envie d'écrire. Et elle me dit sur ce courrier, l'écriture c'est un exercice très difficile. Continuez, c'est un travail très dur. Si un jour vous avez quelque chose à dire, vous le direz. En effet, comme vous le dites, j'ai toujours écrit, mais j'ai toujours laissé ça dans mes tiroirs, dans mes ordi, sans jamais oser donner à lire. Et je crois que ce qui fait que j'ai publié vers la cinquantaine, c'est que j'ai enfin rencontré mon sujet, celui qui me crevait les yeux, qui avait toujours été là. Celui des paysans qui sont ma famille, puisque moi je suis un des premiers à ne pas l'être dans la famille. Et ce sujet me crevait les yeux et était là tout le temps autour de moi. Et puis il a fallu que j'attende la cinquantaine pour le rencontrer, ce sujet.
Et donc, je dois avouer que moi, j'ai été agréablement surpris par la qualité d'écriture que vous proposez, particulièrement dans le dernier, le silence de la combe. Là, encore une fois, vous avez choisi la fiction, on retrouve la vie du Lauragais. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre?
Dans la première partie de votre question, vous parlez de la qualité d'écriture. Effectivement, je crois que je n'aurais jamais publié si à un moment, je n'avais pas senti que ce que j'allais donner à lire se tenait un peu. C'est quelque chose à quoi je suis très attaché en tant que lecteur, en tant qu'enseignant, puisque je suis enseignant. Voilà. Donc ça, c'est un parcours de vie aussi. Et par exemple, je ne montrerai jamais ce que j'ai pu écrire quand j'avais 25 ou 30 ans. Pour ce qui est du roman, cette fois, alors, les carnets m'ont servi toujours pareil de contexte de travail, hein, le cadre rigoureux, historique donné par les carnets est celui-là. Et je suis parti de cartes postales qui étaient dans les tiroirs, chez ma grand-mère aussi, puisque mon arrière-grand-père, quand il avait 35 ans, au tout début de la guerre, a été mobilisé immédiatement en tant que réserviste à Agen, où il est resté de nombreux mois sans que rien ne se passe, alors que la drôle de guerre a commencé. Et pendant ce temps, il fallait que la ferme continue à vivre avec un travailleur en moins et toutes les complexités que cela générait. Donc je suis parti de ces cartes postales. Et puis entre les cartes postales, j'ai laissé mon imagination courir en donnant à cette famille lauragaise voilà, les difficultés qu'on a pu rencontrer, que j'ai documentées au début de la guerre de 1939.
Oui. Alors on y trouve donc Suzanne, c'est Suzanne Larroux hein, qui va être, elle, contrainte donc d'assumer elle toute seule la gestion de la ferme familiale, puisque Jean, lui, réserviste, a été appelé à Agen. Et puis il y a Lino, qui est un personnage que Suzanne a connu
par le passé.
Et puis l'arrivée de ce Lino va réveiller un certain nombre de secrets. On ne va pas les dévoiler, évidemment, parce que c'est toute l'intrigue du livre. Ce personnage de Lino, j'aimerais qu'on en dise un mot, parce qu'il est important, parce qu'il fait référence aussi à des périodes dans le Lauragais, c'est notamment à l'immigration italienne. Il y a eu beaucoup d'immigrés italiens à un moment donné, notamment dans la paysannerie, qui sont venus dans le sud-ouest. Mmh. C'était important de faire référence à cette histoire-là.
Et oui, parce qu'ils font complètement partie de cette histoire du Lauragais. Donc moi,
un contexte particulier qui est celui de la Seconde Guerre mondiale, en
Absolument.
Plus.
Absolument. Et donc, c'est un moment aussi où se cristallise à nouveau un certain nombre de tensions et voilà, certaines de ces familles italiennes se retrouvent en plein paradoxe au moment où la guerre se déclenche. Donc je trouvais que c'était absolument indispensable d'y faire référence. Et ce personnage de Lino, voilà, je l'ai voulu avec ses zones d'ombre, avec ses mystères, avec ce qu'il ramène du passé de Suzanne. Voilà, donc là, c'est le romanesque qui prend le dessus, mais je trouvais que c'était important qu'il soit là, oui.
Il y a aussi un autre personnage qui arrive et qui découvre le Lauragais, qui est une Alsacienne. Et on découvre aussi, moi, pour le coup, je ne le savais pas, qu'il y a eu des réfugiés lorrains dans le Lauragais.
Absolument, et en grande quantité au moment où se sont déclenchées les hostilités, puis ensuite au moment de la bataille de France en 40. Et donc, voilà, Toulouse a reçu cet afflux migratoire de Lorrains, de Belges, de Hollandais, etc., etc. Voilà, et qui sont arrivés, y compris dans les campagnes lauragaises.
Vous écoutez Itrema et nous sommes avec Sébastien Safon, l'auteur du Silence de la Combe. On se retrouve tout de suite après cette petite pause musicale.
Elle s'y va la vie d'ici, la vie est là d'ici bas. Elle débat et batterie les premiers pas dansés à l'avant des écoliers. Balancé dans l'air sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fin de nuit d'abus du soufflet qui s'étirait, risait mon seul ton du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piques et pocs aussi va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous donc, dis, dans des mots doux, oh, dis désir ici, efficace est à pas passer. Sur ton accordéon, tu touches à toucher, vous les faciles, agis là du bout des doigts, d'aussi le songe à si tu médises des fois, tu fasses firmament une note cassée. Cassée, on n'en plus jamais dans la scène, la musique a fini, mélodie qui vit, et file la basse en balélie, cassée, la balade dans l'horizon. Sur ton accordéon, tu touches à toucher, vous les faciles, agis là du bout des doigts, d'aussi le songe à si tu médises des fois, tu fasses firmament une note cassée. Cassée, on n'en plus jamais dans la scène, la musique a fini, mélodie qui vit, et file la basse en balélie, cassée, la balade dans l'horizon. Ainsi va lui battre la vie ça va, tu l'as dit. Au bal aussi, c'est là que t'as tout vu passer, le passé dépaysé. Vas-y, l'évasif, vas-y, l'enfant, tout petit déjà. Jadis, on l'a dit, mais il a la caisse, comme des oufs, tu l'as pas scoumaco. Et si c'était dommage, pas si c'est un hommage aux hommes assis devant, vu de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le, dis donc, dis, dans des mots doux, oh, dis désir ici, efficace est à pas passer. Et si loneliness disparaît tout. T'andrai come bec, qu'un désir ambitieuse, assurément libère, tout est l'animal sauvage, la cause, comme t'es la hate. T'as beau revoir, tu que truca, tu que traca, tu que toca, tu que riga, tu que raca, tu que rigo, ragunana, bebe mille ou cop, tite cabourut. En cuero y copa, tu que truca, tu que taca, tu que toca, tu que riga, tu que raca, tu que rigo, ragunana, bebe mille ou cop, pelut.
On retrouve Sébastien Safon, auteur du livre Le silence de la combe aux éditions du 38.
Alors le lauragais c'est aussi une langue puisque l'occitan a été longtemps pratiqué. Là aussi, vous souhaitez la faire apparaître cette langue à différents endroits. On retrouve des mots de cet occitan et de ce patois.
Oui, parce que ça fait complètement partie de notre toponymie. Lauragaise, ça fait aussi, ici, là, hein, si vous allez dans les rues de Villefranche, d'Avignonnet, vous allez retrouver plein d'expressions qui encore jalonnent nos conversations, et c'est heureux. Et je trouve que c'est indissociable de notre culture, et encore plus à l'époque, évidemment. C'est pour ça que j'y fais référence par petites touches pour que, évidemment, ça, les choses restent lisibles. Mais cette langue occitane, oui, est quelque chose qui était important pour moi. D'ailleurs, à mes heures perdues, je fais un peu de théâtre et notamment en occitan pour que vive cette langue à laquelle je suis très attaché, moi aussi.
Ouais, la vie de Suzanne est extrêmement compliquée au-delà du contexte historique. Il y a aussi les conditions de vie d'une famille qui vit à dans une ferme, dans le Lauragais, à cette époque-là.
Oui. Les conditions de vie sont difficiles parce qu'on est là sur de la toute petite propriété. Qu'on n'est pas encore mécanisé, le tracteur n'a pas fait son apparition, il l'a fait dans certaines fermes un peu plus, de plus grande taille, mais là on travaille encore avec les bœufs, donc c'est du temps, c'est de la peine, c'est une organisation lente au fil des saisons, qui ressort très bien dans les carnets des mille. Hein. Quand on va sur le blog, on voit là, cette vie lente au fil des saisons, et on sent entre les lignes aussi, même si mon grand-père écrivait de façon très factuelle, puisque c'était un objet de travail, ces carnets, on sent quand même toute l'âpreté, la difficulté de cette vie-là. Hein. La peine des corps, la peine du travailleur, on la sent vraiment.
Et on voit aussi certaines machines qui, peut-être à l'époque, étaient modernes, mais qui ont aujourd'hui disparu, comme par exemple le tarare. Il y a une description justement du tarare. Voilà, à chaque fois, vous essayez de retrouver des éléments pour ancrer l'histoire dans une période et nous faire découvrir vraiment cette période.
Oui, et c'est l'objet des recherches qui accompagnent un peu les références que je peux trouver dans les carnets. Et en ça, finalement, j'ai l'impression que j'ai encore avec mon grand-père un dialogue un peu de l'autre côté du temps, depuis l'autre côté du temps, si vous voulez. Parce que quand je trouve une référence, je ne sais pas forcément ce que c'est. Donc, il faut que je fasse des recherches. Parfois, ma grand-mère... qui a 95 ans et est encore là, m'éclaire un peu. Et puis, il faut que je me plonge dans les livres, sur les sites internet, etc., pour recontextualiser. Et puis, j'ai aussi des grands et merveilleux témoins sur les carnets des mille qui me font part de leurs souvenirs et qui sont aptes à m'éclairer.
Quel rapport entretenez-vous avec la littérature? Est-ce que vous avez des modèles? Est-ce que vous avez des influences?
Non, je vais pas citer de nom, mais je suis pas forcément un lecteur de littérature de terroir, curieusement. J'aime bien les polars, j'aime bien qu'il y ait du souffle dans ce que je lis, Je suis très attentif à ce que la littérature actuelle fait. Et puis, depuis que je suis auteur, j'ai la chance aussi de côtoyer tous les auteurs de la région. Et c'est une belle aventure que d'échanger sur notre travail, que d'échanger sur nos façons de faire, que d'échanger sur nos écrits. On se rencontre assez régulièrement dans les salons. Et donc, oui, j'ai fait des merveilleuses découvertes d'écrivains qui nous entourent ici dans le Lauragais.
Et est-ce que vous pourriez écrire un roman qui ne se passerait pas dans le Lauragais? Parce que là, évidemment, on comprend bien que vous avez un rapport intime avec cette terre-là. Est-ce que vous pouvez vous imaginer aujourd'hui, demain, écrivant ailleurs que dans le Lauragais?
On ne parle bien que de ce qu'on aime, je crois. Et donc, moi, je suis un bébé écrivain. Hein. J'ai produit, pour l'instant, 3 romans. Et donc ce sont ces sujets-là qui me mobilisent. Je crois que j'ai beaucoup de choses à dire encore sur ce Lauragais agricole, à d'autres périodes. Donc je crois que non, je ne suis pas prêt de le quitter, ni physiquement parce que j'y suis né, j'y vis, j'y travaille, ni dans mes écrits parce que c'est un sujet qui me passionne et j'adore le mettre en lumière.
Voilà, c'était Itréma avec Sébastien Safon, auteur du livre Le silence de la combe, un ouvrage édité par les éditions du 38. Vous pouvez vous le procurer en vous rendant directement sur le site de la maison d'édition, éditionsdu38toutattaché.com, ou bien en le commandant chez votre libraire. Merci beaucoup à Sébastien Safon et aux éditions du 38.